Et c'est marquant, Jacques Lavergne, bonjour. Qu'est-ce qu'un essai ? Un essai, c'est une œuvre de réflexion sur les sujets les plus divers, parfois polémiques ou partisans, mais pas obligatoirement. C'est un texte littéraire qui aborde des domaines variés, historiques, scientifiques, philosophiques, économiques, politiques. Et aujourd'hui, je vais vous parler des routes de la liberté de Joseph Stiglitz aux trois L, comprenez les liens qui libèrent. Alors c'est un gros livre, hein, mais ça ne doit rebuter personne, parce qu'une fois qu'on l'a commencé, ben, on a envie de le poursuivre. 383 pages utiles, le prix de 24,90 €, autrement dit quasiment 25. Et c'est sorti récemment, puisqu'il est sorti en décembre 2024, il devait être dans les bacs en début d'année. Alors Joseph Stiglitz, bien, il est né dans l'Indiana en 1943, c'est un économiste américain qui est lauréat du prix Nobel, avec deux autres complices, Akerlof et Spence. Ils ont eu ce prix en 2001 pour leurs travaux sur les marchés avec asymétrie d'information. Là, on est dans la technique pure, hein. C'est un homme qui a eu une très très belle carrière, quatrième année d'université, il l'a fait au MIT. Le fameux MIT, où il entreprend des travaux de recherche. Ensuite, il ira les continuer à Chicago. Il va avoir son titre de docteur à 24 ans, ce qui est quand même pas rien. Il l'aura à Boston, une bourse à Cambridge. Et à 27 ans, ce qui est assez extraordinaire aussi, Stiglitz est nommé professeur. Et deux ans plus tard, il rentre à la Société d'économétrie, qui est, comme personne ne le sait, mais ben maintenant on va le savoir, le panthéon de la profession. Et alors là, il va commencer une carrière exceptionnelle à l'université de Yale d'abord, où il est promu professeur ordinaire alors qu'il a à peine 27 ans, et puis ensuite on va le retrouver à Stanford, à Oxford, à Princeton, et entre-temps il va aller se balader un peu partout dans le monde, et notamment à l'Institut d'études du développement de l'université de Nairobi. Et puis, il va s'imposer très rapidement comme un grand théoricien. Il va faire sien des sujets fondamentaux, comme les causes et conséquences des inégalités, la persistance du chômage, la fréquence des crises financières. Il va rapidement orienter son attention vers l'asymétrie d'information. Donc, vous l'avez compris, c'est ce qui fera de lui primé par les Nobel d'économie en 2001. Il sera le fondateur de l'économie d'information. Aujourd'hui, il enseigne à l'Université de Columbia. Il est aussi rédacteur en chef du journal Les Voies économiques. Je vous le dis en français, c'est plus simple. Et il s'occupe de différentes choses. Même Jean-Paul II l'a nommé à l'Académie pontificale des sciences sociales. Donc, c'est vous dire que c'est un homme qu'on trouve un peu partout. Et là, il est édité par une maison d'édition que j'aime beaucoup, très belle maison, Les Liens qui libèrent, les trois L, qui a été créée en association avec Actes Sud. Alors, c'est une maison qu'il faut suivre, hein. Elle se propose d'interroger les questions de la crise des liens dans nos sociétés occidentales. Ils nous disent, si vous lisez leur première page de site, que depuis la fin du 19e siècle, plutôt le darwinisme, la relativité, la physique quantique, la psychanalyse, l'analyse systémique, l'essor de l'épigénétique, mais aussi la peinture abstraite, le surréalisme, etc. Voilà ce qu'ils traitent, hein, tout ça étant reconnu comme constitutif de toutes expressions de la réalité. Donc, par contre, ils sont partis du principe que nos sociétés occidentales sont marquées du sceau de la déliaison, économisation du monde, financiarisation de l'économie, individualisme exacerbé, perpétuation de l'idée de l'homme comme maître et possesseur de la nature, vous savez que c'est qu'il a dit, hein, il y a quelques siècles, croyance en l'autodétermination de l'individu, déni du sujet symbolique ou imaginaire, etc. etc. Donc c'est une véritable crise de la représentation des sociétés, et c'est ce qu'entend traiter la maison d'édition les liens qui libèrent. Et puis, il y a quelque chose aussi qui, nous, à nous, Toulousains, nous le rend sympathique, c'est que c'est Bernard Maris, économiste cher à nos économistes de la radio, notamment Anisla, hein, qui m'a beaucoup écrit, qui a donné son nom à la maison d'édition. Vous savez, Bernard Maris, qui avait été tué lors de l'attaque de Charlie Hebdo, puisqu'il en était un des rédacteurs. Alors, un aperçu de la quatrième de couverture, je vous la donne in extenso. Le libéralisme de nos sociétés contemporaines serait-il en train de tuer nos libertés individuelles et collectives ? Au nom même de la liberté, les néolibéraux et leurs alliés de droite radicale enchaînent les mesures politiques et économiques qui la restreignent. Ces échecs ont poussé beaucoup d'insatisfaits à se tourner vers le populisme et des figures comme Donald Trump, qu'on ne présente plus, Jair Bolsonaro, ça c'est le Brésil, ou Narendra Modi en Inde. Alors comment on en est arrivé là ? Eh bien c'est tout le propos du livre, enfin au moins de sa première partie. Il va s'attaquer à des géants de l'économie tels que Friedrich Hayek et Milton Friedman, et il va décrypter les conséquences du néolibéralisme, critiquant vigoureusement les dogmes économiques contemporains et l'influence des idéologies néolibérales sur les médias et l'éducation. Et cet économiste de dénoncer les idées reçues sur les marchés prétendument libres, qui au lieu de favoriser une prospérité générale, exacerbent les inégalités, concentrent les richesses entre les mains d'une élite minoritaire. Un essai d'une actualité brûlante qui ouvre de nouveaux horizons critiques et encourage à se réapproprier la notion de liberté. Alors, un aperçu de la table des matières, parce que je vous l'ai dit, le livre est gros, c'est la vraie lecture pour l'été. Hein. Bon, je ne sais pas si vous le lirez sur la plage, mais au moins au frais chez vous, c'est quelque chose qu'il faut absolument parcourir. Le livre commence par une préface suivie de deux chapitres. Chapitre, introduction, la liberté en danger, les principes clés, quelques approches modernes, et un chapitre 2, comment les économistes pensent la liberté. Ça, c'est tout à fait intéressant et étonnant. Et après, suivent trois parties dont je vais vous donner les titres. On ne va pas, bien sûr, passer tous les chapitres en revue. Première partie, liberté, les principes fondamentaux. Deuxième partie, liberté, croyance et préférence et création de la bonne société. Il va nous expliquer ce que c'est qu'à ses yeux la bonne société. Et troisième partie, quel genre d'économie permet une société bonne, juste et libre. Voilà pour ce qui est de la table des matières. Alors, quelques lectures de passage, on va essayer de faire bref quand même. Première lecture, c'est au début du livre, page 16, donc on est encore dans la préface. Et voilà quelques lignes de Stiglitz. Aujourd'hui, c'est le néolibéralisme, la croyance en des marchés sans entrave et sans réglementation, qui entraîne des inégalités colossales et qui ouvre la voie au populisme. Entre autres crimes, le néolibéralisme a libéré la finance, ce qui a précipité la plus grave crise financière en trois quarts de siècle. Il a libéré le commerce pour accélérer la désindustrialisation et il a rendu les entreprises libres d'exploiter les consommateurs, les travailleurs et l'environnement. Contrairement à ce que Friedman suggérait dans son livre « Capitalisme et liberté » publié pour la première fois en 1962, cette forme de capitalisme ne favorise pas la liberté dans notre société. Elle a en fait offert la liberté à quelques-uns pour en priver la majorité, la liberté pour les loups, la mort pour les agneaux. Donc vous voyez quand même que il n'a pas Stiglitz la langue dans sa poche et il dit les choses très crûment, très directement, c'est ce qui fait quand même l'intérêt de son livre. Et puis une autre lecture qui, elle, se situe totalement, quasiment à la fin du livre, la page 378, début d'un sous-chapitre intitulé « La route du populisme ». Voici le texte. Au nom même de la liberté, les néolibéraux et la droite radicale recommandent des mesures qui limitent les opportunités et les libertés, tant politiques qu'économiques, des plus nombreux au profit de quelques-uns. tous les échecs économiques et politiques associés au libéralisme, au néolibéralisme, ont nui à d'immenses segments de la population mondiale, dont beaucoup ont réagi en se tournant vers le populisme attiré par des personnalités autoritaires, et comme on les a déjà cités, hein, comme Trump, Bolsonaro, Poutine, Modi, ces hommes cherchent des boucs émissaires pour expliquer ce qui ne va pas et offrir des réponses simplistes à des questions complexes. Donc vous voyez toujours ce caractère très direct qui va l'amener à critiquer très vivement Hayek, qui est un économiste dont on a déjà parlé à propos d'autres essais il n'y a pas si longtemps, et puis également Milton Friedman, hein, qui avait des visions extrêmement particulières, qui sont anciennes, mais qui ont été remises au goût du jour par Trump. Alors Trump ne les a certainement jamais lues, mais certainement par Vance, et puis par l'équipe d'idéologues de la Silicon Valley qui est autour de lui. Alors, conclusion de l'essai. Alors, il n'y a pas véritablement de conclusion, mais il y a une phrase qui m'avait marqué, donc je vous la cite en guise de conclusion, mais elle n'est que très partielle et partiale. La crise climatique ne nous permet pas d'ignorer comment le capitalisme sans entrave nous a poussés à dépasser nos limites environnementales, et la crise démocratique, des inégalités, du populisme, ne nous laissera pas ignorer que les idéaux de la démocratie sont mis en pièces. La collision des deux constitue une menace redoutable. On peut considérer que c'est une mini-conclusion qu'il faut absolument retenir, mais vous verrez si vous lisez le livre, tout cela est très largement développé et explicité. Alors pourquoi faut-il lire ce livre? Qu'est-ce qu'il nous apprend? Ben vous l'avez compris dans les propos que j'ai tenus jusque-là. Ivan Stiglitz va développer une conception de la liberté qui est en tout point de vue opposée à la vision de ces fameux libertariens que j'évoquais, Trump et puis Elon Musk. Et il va se poser la question de savoir si on doit les considérer comme des fossoyeurs de la liberté. Alors, à rebours des tendances libertariennes de l'administration Trump, Stiglitz formule dans cet ouvrage une vive critique du libéralisme débridé et de l'héritage néolibéral qui privilégie la liberté des marchés au détriment des libertés collectives et des droits économiques. Et il va proposer, à travers une approche progressiste, des réformes pour réconcilier liberté individuelle, égalité et bien-être collectif. Il ne se contente pas de démonter le système, il va faire des propositions. Donc, est-ce que Stiglitz conserve l'espoir d'être entendu par Trump? Ça, je pense que là-dessus, l'homme est assez intelligent pour ne pas se faire d'illusions. On va se poser aussi des questions sur l'avenir des relations transatlantiques. Et puis, il va aborder le pouvoir des géants de la tech, hein, qu'il appelle une propagande privatisée. Et il va mettre en lumière la tension entre la liberté des loups, autrement dit les actionnaires, et les effets collatéraux qu'elle peut avoir sur d'autres personnes. Et il va nous suggérer qu'il est essentiel de trouver un équilibre entre les libertés individuelles et les responsabilités collectives. Et à cet égard, la montée des monopoles, notamment dans le domaine des réseaux sociaux et des géants de la tech comme Bezos, comme Musk, soulève de sérieuses préoccupations des grandes entreprises, nous dit-il, qui concentrent un pouvoir énorme et peuvent influencer les comportements et les croyances des individus, notamment par le contrôle de l'information. Il considère ce phénomène comme une forme de, ouvrez les guillemets, de propagande privatisée, plus dangereuse que les monopoles industriels du passé, car elle touche à la liberté d'opinion et à la manipulation des masses. Et l'État, selon lui, doit intervenir pour réguler ces géants et éviter une concentration excessive de pouvoir. C'est ce que tente de faire, peut-être un peu maladroitement, l'Europe, et c'est ce que d'ailleurs le vice-président Vance était venu nous reprocher en n'ayant strictement aucune pudeur et en stupéfiant un peu son auditoire. Donc voyez, Les routes de la liberté, Joseph Stiglitz, Au lien qui libère, c'est vraiment un livre, à l'époque où on est, extrêmement rafraîchissant parce qu'il nous met en lumière, il pointe pointe tous les errements de l'économie actuelle, de ce néolibéralisme. Et puis après, il va nous proposer des solutions. Il va nous proposer peut-être un autre système économique, toujours dans le capitalisme, mais de le traiter autrement. Il faut lire Les routes de la liberté à l'époque où l'on est. À mon avis, c'est absolument indispensable et on y apprend beaucoup intellectuellement. C'est très gratifiant. Je suis pas économiste, je l'ai lu, donc je pense que tous autant que vous êtes auditrices et auditeurs, vous pouvez en faire de même et vous allez voir, vous en sortirez avec une réflexion enrichie et certainement peut-être un peu plus d'optimisme sur l'avenir, ce qui par les temps qui courent n'est pas du luxe. Voilà, c'était Essai marquant par Jacques Lavergne. À la réalisation, l'indispensable Grégor Lachaise. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission ainsi que ceux de toutes les autres sur le site d'Esprit Occitanie. Bonne lecture à toutes et à tous.